Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonjour. Nous allons aborder un sujet particulier ce matin. Et j'aimerais justement que nous prenions en considération à travers quelques textes de l'évangile de Luc, eh bien, certaines réactions ou certaines réflexions qui bien portent sur là, les prétextes. Oui, c'est un sujet particulier. Et j'ai eu à cœur, finalement, ces derniers temps, à la lecture d'un passage dans l'évangile de Luc, de prendre en considération eh bien, quelquefois certains embarras, certaines situations dont nous voulons échapper et nous trouvons des excuses et des prétextes. Alors, simplement pour introduire notre réflexion, eh bien, qu'est-ce qu'un prétexte ? D'abord, un prétexte, c'est trouver une cause simulée, si l'on peut dire, si on peut s'exprimer de cette manière, avec des raisons apparentes, tout simplement destinées à cacher ou tout simplement à faire croire le véritable mobile. Et nous allons voir par les sélections de textes que nous allons observer, eh bien que la Bible est en effet est assez fournie dans ce domaine des attitudes humaines, des réactions, particulièrement devant les propositions de Jésus. Parce que c'est ce qui est intéressant dans les choses indifférentes de la vie, dans nos rapports avec les hommes, eh bien, on s'aperçoit très souvent que, quelquefois, lorsque les choses sont délicates ou embarrassantes, eh bien, on trouve toujours des excuses, on trouve toujours quelques prétextes pour, en effet, échapper ou se soustraire. Alors peut-être qu'on pourrait peut-être appeler ça des alibis, enfin, vrai ou faux, peu importe. On appelle ça également des échappatoires. Hein. On essaie de trouver dans notre pensée eh bien, quelque chose qui puisse paraître vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est totalement faux. Mais c'est toujours entre bien, la vérité et puis quelquefois son contraire. Et c'est un moyen détourné, si l'on peut présenter les choses de cette manière, par lequel on cherche à se tirer d'embarras. Certains appellent ça une dérobade. Alors je ne sais pas, dans le domaine des affaires, dans le domaine politique, dans les relations que l'on peut avoir les uns avec les autres, si ça existe, des faux fuyants en quelque sorte. Alors on va passer eh bien, finalement eh bien, là, au sujet, au vif du sujet, et j'aimerais que nous ouvrions notre Bible, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'évangile de Luc au chapitre 14, et nous allons lire deux versets. Alors ça c'est connu. Hein, je pense que ce sont des choses qui sont naturellement eh bien, lues et relues par nous les chrétiens. Et nous allons donc, chapitre 14, Luc, chapitre 14, versets 16 et 18. Alors, il est posé une question, tout simplement, et Jésus va répondre, « Heureux ceux qui prendra, celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Alors. La question est la suivante, et Jésus lui répondit, c'est quelqu'un qui dit cela, hein, et Jésus va donc répondre à tout cela, « Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. » Voilà, alors là, nous avons un cas flagrant, hein, on ne peut pas trouver mieux, d'embarras. Et on va essayer d'expliquer un petit peu les choses. On a remarqué, hein, il n'y en a pas eu quelques-uns, mais c'est unanimement, tous, se mirent à s'excuser. Alors c'est exposé naturellement à la suite de cette question de cet homme qui s'exclame, heureux ceux qui prendront leur repas dans le royaume de Dieu. Ben, Jésus justement va s'en servir hein, pour dire qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus. Ça fait partie justement eh bien, des échappatoires des hommes qui cherchent des excuses, des alibis. Alors, ça met en évidence naturellement cette conversation, ce que les hommes inventent, oui, je dois dire, hein, et l'homme est très fort dans sa manière de trouver des situations comme excuses, des prétextes pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Alors, on a vu, et on le détaillera tout à l'heure, que c'était quand même une invitation qui était aimable. C'était pas Jésus qui appelle et qui dit, voilà, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, ma parole, mes lois, l'obéissance, j'entends que ceci ou cela. Non, c'est quelque chose de très agréable à des noces. Voilà, un roi fit des noces, et naturellement, dans ce contexte, eh bien, tout le monde est invité parce que c'est quelque chose de réjouissant. Répondre à l'appel de Dieu, dans ce cas, répondre, eh bien là, à ce que quelquefois Dieu peut nous demander. Et nous allons naturellement, eh bien, expliciter cet exemple qui nous est donné. Il s'agit des invités à un festin royal. Voilà, c'est pas n'importe quoi. Et le contexte, parce que je vais faire valoir dans notre méditation le contexte et les prétextes. C'est ça. On va osciller entre le contexte et les prétextes. Parce que faut, si on parle de, pour bien comprendre, si on veut expliciter ce que c'est que, eh bien là, toute cette dérobade, on pourrait dire, il faut savoir au moins dans quel contexte les choses sont faites. Nous voyons que ces hommes ont été appelés par les serviteurs du roi à choisir les premières places. Ah, ce n'est pas les dernières, ce ne sont pas les oubliés, ce sont les invités de la première heure. Et ils sont choisis pour véritablement être honorés. Eh bien là, ce festin. Mais nous voyons que la réponse, eh bien, c'est parce qu'ils vont opposer à cette invitation aimable, à cette invitation divine, si nous la remettons dans le contexte évangélique, eh bien, ce sont finalement les intérêts personnels prioritaires. L'un dira, eh bien voilà, je viens de me marier, bon, il n'a peut-être pas envie d'aller faire deux noces l'une après l'autre, la sienne et puis celle de la noce qui était celle de l'invitation du roi. Hein, moi, je viens d'acheter des bœufs, il faut que j'aille les essayer. D'autres diront encore, j'ai du travail, j'ai ceci et cela. Ben, voilà, naturellement. Alors, on reste toujours dans la pensée d'un contexte aimable, une invitation gracieuse, parce que c'est ça, il ne faut pas oublier que c'est gracieux, et puis la réponse qui est une réponse négative, quelque part, les intérêts personnels prioritaires. Vous savez, le prophète Ésaïe avait laissé entendre cette parole de la part de Dieu, et il dira, mais qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre invitation? Qui a cru, eh bien, ce qui était annoncé? Et c'est vrai que hier, comme du temps d'Ésaïe, comme du temps de Jésus, puisque nous portons les regards sur l'Évangile, et comme encore aujourd'hui, eh bien on s'aperçoit que quand il s'agit de la parole de Dieu, lorsqu'il s'agit du salut, lorsqu'il s'agit de recevoir finalement eh bien, cette paix de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, une vie nouvelle, eh bien il y a toujours des excuses et des prétextes. Alors, fort heureusement, il y a des hommes et des femmes qui vont répondre favorablement, qui attendent cela, et inconsciemment, ils sentent qu'il y a un appel, il y a quelque chose, et qui sont là, eh bien, dans cette attente, dans cette espérance que, eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans leur vie, et que ça vienne finalement, non pas de leur environnement, mais que ça vienne de Dieu, que ce soit Dieu qui, eh bien, quelque part, leur parle. Et ils répondent. Mais dans la grande majorité des cas, on s'aperçoit qu'il y a là, en effet, toutes sortes d'excuses, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, etc. Et quand on lit dans le détail cette histoire, elle n'est osée rapportée, il me semble bien, par Luc, par Matthieu également, et chacun va trouver finalement eh bien, des raisons pour dire « Ah non, non, moi je ne peux pas, parce que bon, j'ai ceci et cela, etc. etc. » On comprend tout à fait que finalement, c'est clair, le roi va envoyer ses serviteurs, il va en envoyer encore d'autres, il va en envoyer encore d'autres, et c'est la même réponse, personne ne répond. À un moment donné, le roi dira, bien, écoutez, maintenant vous allez sur les routes, vous allez sur les chemins, vous allez dans les buissons, vous allez partout, et les pauvres gens que vous rencontrerez, vous leur parlez, finalement, de mon invitation, c'est eux qui vont venir. Et nous nous apercevons que là, il y avait un sous-entendu, quand Jésus, que le royaume de Dieu, eh bien, sera fermé aux religieux, aux pharisiens, mais que ce sera vraiment les prostituées, les gens de mauvaise vie qui vont répondre à l'appel. Et c'est en fait, c'est ce qui s'est passé, on le voit. Alors qui a cru à ce qui était annoncé? Aujourd'hui, l'appel est toujours le même, 2000 ans après, Mais on s'aperçoit que les gens ne sont pas toujours enclins, même si c'est quelque chose d'aimable et si c'est quelque chose de gracieux. Il y a un deuxième texte qui va nourrir finalement eh bien, ce que nous venons de dire. C'est ce texte dans Luc chapitre 9 et verset 57. Et c'est aussi intéressant de le prendre en considération parce que là, il y a aussi une belle leçon, une belle réflexion. Alors, j'ai bien dit, il s'agit de Luc chapitre 9, verset 57. Alors, on va le lire, hein, tout simplement. « Pendant qu'ils étaient en chemin, Jésus et ses disciples, naturellement, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Mais les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon père, d'aller ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Deuxième exemple, il est intéressant parce qu'il y a un caractère tout à fait particulier. Tout à l'heure, nous l'avons dit, et je le rappelle, c'est une invitation gracieuse. Là, c'est une invitation à rentrer dans l'œuvre de Dieu pour servir Dieu. Voilà. Il y a des gens qui portent en eux-mêmes ce désir d'abord de ce respect de Dieu, de cette crainte de Dieu, mais ils veulent faire quelque chose pour Dieu. Alors que quelque part, Dieu a tout fait. Hein. C'est simplement rentrer dans le sillage de ce qu'il a tracé. Mais voilà, trois interventions, trois intervenants. Et on pourrait peut-être nommer cet épisode dans l'Évangile, dans ce chapitre-là, les appeler réfractaires au service, hein, les inviter au festin royal pour la première fois. Là, il s'agit des appelés réfractaires au service. Et le contexte, c'est tout simplement le service de Dieu. Et c'est un honneur, voilà. C'est un honneur d'être invité aux noces du roi, du fils du roi. Mais là, c'est un honneur aussi de pouvoir dire, eh bien, ma vie, elle a un sens, elle a une destination. Dieu m'a donné certainement quelques capacités, si petite soit-elle, peu importe, hein, parce que ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de fidélité, de qualité. Et de pouvoir, eh bien, avec ce que Dieu nous a donné, d'une manière ou d'une autre, des dons naturels ou des dons qui viennent peut-être plus marqués, qu'on appelle les dons spirituels, hein, ou des appels particuliers, et c'est un honneur. Hein. Alors, le prétexte, ce sont des engagements superficiels et sans lendemain. Voilà. Il y a un qui dit, ben voilà, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit, bon, tu le dis, mais il y a peu de chances que tu te mettes en route pour le faire, parce que, moi, je voudrais te dire, si tu ne renonces pas à ton confort, si tu ne vis pas de cette pensée du sacrifice que pour me servir, il va falloir certainement renoncer à certaines choses, ben, tu n'iras pas loin, parce que, voilà, les oiseaux, ils ont des nids, les renards, des tanières, mais si tu me suis, il y aura certainement un sacrifice qui sera le prix de ton engagement. Et Jésus de conclure, alors il y en a un qui dit cela, l'autre qui dit, ben, je voudrais quand même ensevelir mon père avant qu'il meure, enfin pas avant qu'il meure, mais une fois qu'il sera mort, d'attendre, et puis l'autre dira, mais tu sais, moi je suis prêt à faire n'importe quoi, d'aller jusqu'au bout du monde. Oui, on a bien dit des engagements superficiels, parce qu'entre la parole et puis les actes, c'est deux choses différentes, et il n'y a pas de lendemain. Et Jésus pourra conclure cette deuxième interpellation, il dira, mais si tu commences à mettre la main à la charrue, et que tu commences à regarder derrière toi, tu n'es pas prêt pour le royaume de Dieu. Tu prétends pouvoir me servir, me suivre, pouvoir proclamer le message que j'annonce aux hommes et que tu seras toi-même mon porte-parole, mais si tu commences, il faut aller jusqu'au bout, autrement ce n'est pas la peine de commencer. Donc, prétextes qui sont évoqués pour dire, ben oui, on le dit, mais on ne le fait pas. Il y a une troisième proposition, toujours dans l'évangile de Luc, on va le lire, c'est dans le chapitre 10, et au verset 31 et 32, il est dit ceci, et nous allons reconnaître, nous le reconnaissons celui-ci, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui, fortuitement par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre, un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. » Ah, quelle histoire! Hein, c'était, ils n'avaient certainement pas l'esprit du SAMU hein, et du secours immédiat dans la détresse des autres. Alors, autant nous avons vu tout à l'heure l'invitation, le contexte, invitation gracieuse, le privilège de pouvoir servir Dieu parce que c'est un honneur, là nous touchons à quelque chose, c'est la religion illusoire. La religion qui ne mène à rien, la religion qui ne porte pas de fruits, la religion qui n'est que simplement eh bien, l'apparence d'une piété, mais qui n'a rien de profondeur, la religion illusoire. Rappelons que le sacrificateur était un prêtre, que le Lévite était un homme de la loi de Dieu, hein, enseignant la loi, etc., etc. Le premier passe, il regarde et puis il dit « Oh, le pauvre homme !» et il s'en va. Le deuxième, toujours dans cet esprit qui sont le, cet esprit de ces deux hommes, il regarde, il dit « Oh bah oui, c'est vrai qu'il est mal en point » et il se précipite pour partir le plus vite possible. C'est le mot hein, qui est donné. Hein. Passer outre, c'est-à-dire ne faire aucun cas. De dire oui, on constate, on le voit, on le sait. La conscience humaine doit nous amener eh bien, à au moins se pencher sur le blessé et puis peut-être lui parler, lui demander ce qui lui est arrivé, etc. Mais là, il n'y a pas un mot, il n'y a pas un arrêt. Tout le monde s'en va précipitamment. Passer outre. Donc c'est l'indifférence. Les prétextes et les raisons. Par-delà, finalement, la conscience, la nécessité en conscience d'aider celui qui se trouve dans l'infortune, eh bien, et le témoignage, de, on peut le dire, de l'absence de compassion et le mépris d'autrui. Si ça avait été le Lévite et le sacrificateur qui étaient par terre, blessé, il aurait bien aimé qu'on s'arrête pour pouvoir le secourir, mais lui ne le fait même pas. Et peut-être invoquant l'un et l'autre, peut-être la même pensée, de dire, eh bien voilà, je suis sur la route qui descend de Jérusalem à Jéricho, je me rends à Jéricho, j'ai un rendez-vous d'affaires religieuses, et les affaires religieuses passent avant la nécessaire eh bien, intervention pour secourir quelqu'un, la charité, l'amour, la compassion, les affaires religieuses urgentes. Ouais, je crois qu'on est dans un monde aussi où quelque part on fait passer... eh bien, ce que nous prétendons servir Dieu ou aimer Dieu, mais sans faire attention qu'il y a des choses qui sont élémentaires et qui sont là beaucoup plus importantes hein, aux yeux de Dieu que les sacrifices, que les cultes, que les messes, que toutes sortes de choses. Alors, ces deux prêtres, eh bien, se défilent très vite et puis ils disent, voilà, on tourne le dos et puis on n'a pas de temps à perdre. Puis j'aimerais également m'arrêter sur un troisième point, on va le prendre un petit peu plus en détail, hein, parce que bon, je crois que c'est bien de pouvoir nourrir notre réflexion, et toujours, hein, je le rappelle, entre la comparaison entre le contexte hein, et puis les prétextes que nous donnons. Hein. Je voudrais souligner que le contexte est toujours favorable dans les appels que Dieu adresse, que Jésus nous donne en exemple, et puis finalement la pitoyable réponse des hommes dans cette affaire. Les uns disent, moi j'irai pas la noce, j'ai autre chose à faire. L'autre dira, mais moi j'ai pas le temps de m'occuper des affaires de Dieu, parce que bon, il y a ceci, cela. L'autre dira, eh bien voilà, hein, et peut-être je pourrais apporter secours à des malheureux, mais j'ai pas le temps. Voilà, tout simplement, j'ai pas le temps. Il y a un troisième, quatrième texte, qui est aussi très évident et qui nous parle, c'est dans Luc chapitre 17, et au verset 17, et là vous allez naturellement, eh bien, reconnaître... dans ce passage, alors que je retrouve dans le verset, j'ai bien dit, 17. Alors, voilà, donc, alors il s'agit de ces lépreux qui sont sur la route, ils sont 10. Jésus va rentrer là, à la proximité de leur village, et on va avoir, se rendant à Jérusalem, et Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, tous, unanimement, hein, ce qu'ils vont mettre, Jésus, maître, aie pitié de nous, ça veut dire, on est lépreux, nous avons appris, nous savons que tu es capable de guérir finalement nos maux, alors aie pitié de nous. Dès que Jésus les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au souverain sacrificateur, au sacrificateur, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Formidable. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain, tiens. Hein, on est vraiment dans une drôle d'affaire, là. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? N'était-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alors là, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. C'est peut-être plus dissimulé que les trois premières propositions, mais ça veut dire aussi quelque chose. Le contexte, c'est la grâce totale accordée à tous. Au 10, la guérison de la lèpre. C'était quand même une drôle d'affaire, parce que la réputation de la lèpre, c'était inguérissable. Et ces hommes, eh bien là, vont saisir l'opportunité de savoir que Jésus passe à proximité. Ils vont crier, ils vont le supplier, guéris-nous, fais quelque chose pour nous dans cette infortune, comme si c'était probablement des Juifs. Et puis il y avait un Samaritain, comme quoi l'infortune finalement rassemble les hommes, et par-delà les nationalités, les religions, etc. La maladie, hein, finalement, qui faisait le dénominateur commun de la misère de ces hommes. La grâce totale accordée à tous. Et puis la réponse, pour 9, c'est l'ingratitude. Ouais, ils ont tous été guéris, il n'y a pas de... Et si nous examinons dans le détail, nous voyons que le résultat est quand même assez pauvre, assez maigre, parce que 1 sur 10 va revenir, et parmi les 10, il y a 10 Israélites et un Samaritain, et c'est le Samaritain qui revient. Ouais. Celui que l'on pourrait nommer l'inculte, l'ignorant, le païen, voilà, celui qui mélange un petit peu toutes les religions, parce que c'était ça, les Samaritains, c'est un mélange finalement de judaïsme, de religion païenne, enfin bon, toutes sortes de choses comme ça. Et Jésus va dire, mais les 9, où sont-ils ? Est-ce que je me suis trompé ? Est-ce que véritablement, est-ce qu'il n'y en a eu que quelques-uns ? Un qui a été guéri ? Les autres, où sont-ils ? Alors, on peut évoquer toutes sortes de choses. Le prétexte, finalement, de ces gens guéris, mais non revenus vers Jésus. Certains pouvaient dire, ben oui, mais nous sommes trop occupés. Probablement, ça faisait des années qu'ils avaient la lèpre, ils avaient encore le temps. Trop occupés, parce que quelquefois, nos prétextes sont vraiment tirés par les cheveux. Hein. Alors bon, ça fait peut-être illusion, et au plus, quand on y réfléchit, on se dit, mais tout ça, ce sont des histoires. Nous sommes trop pressés. Ben là, c'est pareil, trop occupé, trop pressé, ça revient à peu près au même. Hein. On pourrait peut-être évoquer, mais oui, mais ils étaient distraits. Ben, quand on est malade depuis des années, et que là, on s'aperçoit qu'on est guéri, mais d'une manière miraculeuse, on n'est pas distrait par tout ce qui peut arriver autour. Hein. Ça, on est concentré sur ce qui nous arrive et sur le miracle. Hein. Donc, ça ne tient pas. Est-ce que déjà, en cours de route, ils avaient déjà oublié qu'ils avaient été guéris ? Ça, c'est encore des prétextes. Enfin, on peut l'imaginer. Peut-être ont-ils imaginé aussi que leur guérison n'était ni durable ni sérieuse. Oh oui, ben oui, on a fait peut-être une expérience et ceci et cela. Et ben oui, c'était... voilà, c'est peut-être le hasard. Voilà, on met souvent le truc. C'est des coïncidences, vous savez, c'est ainsi. Peut-être réfléchissait-il à cette autre question, mais valait-il mieux attendre avant de l'annoncer pour éprouver notre guérison dans le temps, parce que c'était véritablement mettre en doute la réalité de la grâce à ce moment-là. Ouais. Alors il faut attendre. On va voir, on va tester, on va attendre une dizaine de jours, hein. On va attendre un mois. Alors après on viendra vers Jésus pour lui dire, mais non, ça marche, hein, ce que tu as fait. Hein, bon, prétexte, hein, échappatoire, enfin on peut toujours inventer toutes sortes de choses. Peut-être ont-ils pensé à ce moment-là que s'ils revenaient vers Jésus pour lui dire merci, comme le seul qui l'a fait, le Samaritain, peut-être que Jésus allait leur demander quelques exigences de quelque chose, finalement en retour. Mais ça ne fonctionne pas avec le mérite, avec le Seigneur. La guérison de ces lépreux était une grâce. Et peut-être qu'ils se disaient, parce qu'ils étaient juifs, eux, hein. Samaritain c'est autre chose, mais ils étaient juifs, ils se disent, mais oui, mais Jésus. Quel personnage ! Il nous a certes guéris, il nous a certes délivrés de notre terrible état de maladie de lépreux, mais peut-être que si on retourne vers lui, il va nous dire, écoutez les petits enfants là, hein, c'est bien gentil, mais il ne faut plus vivre de cette manière, les mettre sous la loi, etc. Alors que Jésus n'avait aucune intention de demander des comptes quelque part. Et quelquefois, il y a des gens en disant, ben oui, mais bon, si j'obtiens ceci, si j'obtiens cette bénédiction, mais peut-être que le Seigneur va me demander... Non, il faut toujours penser que c'est une grâce. Et que Dieu ne fait pas pour que nous lui renvoyions l'ascenseur ou que... Voilà, pas du tout. Hein, c'est une grâce, c'est tout. Il le fait purement et simplement. Et peut-être pensait-il que bien, s'ils reviennent, on va avoir droit à une sacrée leçon. Hein, parce qu'on est lépreux, mais comme dans la connotation israélite du judaïsme, ben, c'était quand même l'emblème du péché, de la sanction de Dieu, du châtiment de Dieu. Ah, ils n'avaient rien compris du tout. Ils étaient encore très très en arrière, hein, finalement, dans... ils n'avaient pas compris l'évangile. Et c'était pourtant, hein, finalement, des juifs, hein, quelque part. Peut-être était-il égoïste et trop orgueilleux, tout simplement, pour s'abaisser à la reconnaissance. Ça, ce sont encore des choses que je suis en train de tirer par les cheveux. Mais, vous savez, ça se passe dans la tête et il y a tellement de choses qui, quelque part, la reconnaissance. Ah oui, mais il y a des gens qui pensent que tout leur est dû, de toute façon, et on n'a pas besoin d'un retour, d'une manière ou d'une autre. Peut-être rester malade. Ils ont crié quand même pour être guéris, hein. On le voit. Rester malade, mais guéri. Ça posait d'autres problèmes d'être guéri, quand on est malade et quand on est malade sur le long temps. Parce que finalement, eh bien, il fallait trouver du travail. Hein? Il fallait assumer ses responsabilités, s'impliquer dans la société. En tant que lépreux, on était mis de côté, c'est sûr, aux bandes de la société, mais on était tranquille. Parce que je pense qu'il y avait toujours des gens qui leur apportaient à manger, qui leur portaient quelques soins. La dolce vita. Oui. Mais bon, enfin, il ne parlait pas italien à l'époque, mais toujours est-il, il parlait peut-être latin, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'être guéri, ça pose un problème. C'est arrivé quelquefois d'entendre des gens disant, ben oui, mais voulez-vous être guéri? Voulez-vous que le Seigneur intervienne en disant, ben oui, mais si je suis guéri, je puis toucher ma pension, mes allocations, enfin pas mes allocations, mais hein, oui, non, mais mes indemnités de ceci et cela. Ben oui, mais bon, il faut savoir, il faut choisir, hein, naturellement. C'est peut-être tout ça des prétextes. C'est peut-être des excuses, c'est peut-être l'échappatoire. S'imaginait-il, peut-être, qu'avec le temps, il pouvait guérir, même sans Jésus. Là, c'était vraiment un miracle patent de la grâce de Dieu, de la main de Dieu qui guérit ces hommes, mais il se disait, un jour, peut-être, que finalement, ben, on a rencontré Jésus, c'est peut-être le fait du hasard, une coïncidence, mais peut-être on a toujours espéré qu'on guérirait peut-être même sans Dieu. Voilà, mais peut-être. C'est pas forcément garanti tout ça. Parce que dire merci à Dieu dans l'histoire des invités au festin royal, dire merci à Dieu lorsqu'il nous donne une mission ou qui est un honneur de le servir, dire merci à Dieu parce que nous avons la foi et faire de notre foi quelque chose qui soit valable pour manifester l'amour de Dieu et la charité, et particulièrement dans les besoins qui nous environnent, ben, est-ce que ça n'implique pas, et ça c'est un peu le cœur de notre méditation maintenant, hein, est-ce que cela n'implique pas d'admettre qu'on a besoin de quelqu'un, qu'on a besoin de quelqu'un qui a fait ou qui fera quelque chose pour nous? Eh oui, c'est aussi une question, eh bien là, d'orgueil ou de fierté, de dire, eh ben, moi je ne m'abaisserai pas à ceci et cela. Ou parfois de vouloir dissimuler, d'avoir envie, ou de ne pas avoir envie de montrer notre faiblesse, nos faiblesses aux autres, ah, de dire, ben oui, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est comme ça. Alors, quelquefois, on préfère rester dans un état de médiocrité d'existence, parce que, voilà, c'est peut-être, c'est parce que c'est un embarras, voilà. Si l'on reprend et brièvement ce passage, je vais le formuler avec des questions maintenant. On a vu la grâce immense d'être invité au salut, dans l'image des noces, du festin des noces. On a vu également que c'est une grâce de pouvoir, eh bien, valoriser notre vie et notre existence avec un but et un sens en servant Dieu. C'est aussi, eh bien, là, quelque chose de tellement important d'exprimer. Non pas avec des beaux mots, non pas avec des beaux habits, religieux soit-il, enfin un manteau, un faux manteau de religiosité, et d'en oublier finalement l'amour et la charité. Alors pourquoi les invités des noces ne se sont-ils pas réjouis d'être invités? Ben oui, parce que l'essentiel c'est ça. Pourquoi ne se sont-ils pas réjouis? Et tout de suite ils se sont précipités pour trouver des excuses, et trouver finalement des faux fuyants en disant, ben oui, il y a ceci, il y a cela, etc., etc. Quand on a le plus, quand on reçoit la proposition du plus, on va rester dans le moins. On préfère encore ce qui est en dessous que de pouvoir aller vers ce qui est au-dessus. Pourquoi les appeler ? Là, je reviens sur le service. N'ont-ils pas répondu, essuyez Jésus ? Ah, tu sais, moi, j'ai mon père. Moi, j'ai mon travail. Moi, j'ai ceci et cela. Est-ce que finalement, eh bien, l'appel de Jésus, quand il s'agit du service, n'est-il pas de plus belle mission que finalement de nous consacrer à lui ? Mais ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas suivi. Pourquoi le prêtre et le lévite ? Pourquoi ces deux hommes de la religion ne se sont-ils pas arrêtés pour secourir le blessé ? C'était finalement dans la loi, puisque c'était des légalistes, puisque c'était des gens de la religion, mais la religion était complètement... Elle était fausse, elle était illusoire, c'était une tromperie. Et la première tromperie, c'était eux-mêmes, quelque part. Parce qu'ils auraient dû. Parce que quand on sait que Dieu est avant tout un Dieu de compassion et de miséricorde, bah, c'est pas la peine de faire des beaux discours. C'est pas la peine de faire des bons sermons, c'est pas la peine d'aller au temple, d'aller dans telle ou telle manifestation, soi-disant pour honorer Dieu, lorsque le geste le plus élémentaire n'est même pas fait. Voilà. On voit très souvent Jésus, d'ailleurs, il nous en donne un exemple formidable de cet amour de Dieu pour ceux qui sont souffrants. Hein, il dira, mais ému de compassion. Voilà. En tous les cas, ces deux hommes, ils n'étaient certainement pas émus de compassion parce que le plus vite possible, dès qu'ils ont jeté un coup d'œil, ils sont partis en courant avec les prétextes ou les excuses qu'ils se sont données, enfin, que le texte nous donne. Pourquoi les neuf lépreux guéris, et je tiens à le dire, hein, ils n'étaient pas à moitié guéris, ils ont été guéris comme le Samaritain, ne sont pas revenus pour dire tout simplement merci. Il y en a un qui l'a fait, les deux autres ne l'ont pas fait. Ils se sont dit, ben nous on retourne vers le sacrificateur. Il nous a dit qu'il fallait retourner vers le sacrificateur, vers la religion. Ben, ils se sont tournés plus vers la religion que celui qui était l'auteur finalement de leur grâce et de leur salut et de leur bonheur. Là, c'est un prétexte aussi hein, de dire, mais moi j'ai ma religion. Moi, je vais, moi, j'ai été baptisé, j'ai ceci, cela, ça a toujours été dans la tradition familiale. Non. Vous savez, on peut le dire, et c'est un lieu commun, mais hein, il vaut mieux aller à Dieu qu'à ça. Hein. Voilà, ben oui, c'est ce que l'on dit. Hein. Voilà. Pourquoi sont-ils pas revenus ? Pour dire merci à Jésus. Ils avaient identifié que c'était Jésus. Ils avaient crié vers Jésus pour être guéris. Et Jésus les avait bénis. Parce que ce n'est pas le sacrificateur qui les a guéris. C'est quand ils ont été voir le sacrificateur sur la route, à la parole de Jésus, immédiatement après la parole, ils se sont regardés, ils ont dit, mais c'est formidable, on n'a plus rien, plus de lèpre, nous sommes guéris. Et ils ont oublié l'auteur de leur bénédiction. C'est terrible. Quatre contextes favorables. Les noces, l'invitation à la joie, le service de Dieu, nous l'avons eu, parce que c'est un honneur et une réalisation positive de notre vie de servir le Seigneur. Et la foi n'est utile que si elle exprime l'amour du prochain, et enfin la gratitude, en trouve les plus grandes bénédictions. Ouais, parce qu'ils auraient été certainement bénis. Le texte nous dit que les neuf qui ne sont pas revenus, leur nom est cité dans une façon négative. Mais ce Samaritain, cet étranger, lui a gardé finalement une place particulière dans le message de l'Évangile. Il a su finalement revenir vers Jésus. Alors, à l'inverse, les prétextes qui sont tous tristes et négatifs et navrants, ces prétextes invoqués témoignent en tous les cas du peu d'intérêt qu'a Dieu, son salut, sa bénédiction dans le cœur et dans l'esprit des hommes. Eh oui, c'est bien cela. Aujourd'hui, dans notre contexte religieux, dans notre contexte, oui, où la religion a sa place dans notre société occidentale, ça c'est certain. Que ce soit décliné sous les différentes grands mouvements, le fait religieux, catholique, orthodoxe, protestant, etc., etc., on s'aperçoit qu'il y a véritablement une désaffection profonde, oui, à la fois de Jésus, puis de sa parole, et de la grâce que Dieu nous donne, de son salut, du salut de Dieu. Et on dit toujours, eh bien voilà, Dieu après, oui, mais c'est Jésus qui nous l'enseigne d'une autre façon, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, qu'il aime, alors on ne va pas en faire l'étalage de toutes nos amours, hein, de tous les objets ou les sujets de nos amours, hein, de nos passions. Mais une chose qui est certaine, c'est que toujours Dieu est toujours en dernier, quelque part. Voilà, c'est ça, et c'est bien dommage. Et véritablement, quand un homme ou une femme découvre comme là, ce samaritain, hein, cet homme sans culture réelle biblique, hein, ou de confusion religieuse, dans sa confusion religieuse, en tous les cas, lui, il a su identifier. Et c'est vrai que c'est quand même un témoignage de notre société d'aujourd'hui, c'est vrai, super perfectionné, un matériel, et on s'aperçoit que quelque part, eh bien, Dieu n'a pas la priorité dans tout cela. On y met tellement de... On embarrasse tellement nos cœurs, nos consciences, nos esprits. Alors, c'est vrai qu'à travers ce message tout simple, eh bien, contexte et prétexte, hein, cela nous amène à réfléchir et de dire, eh bien, Seigneur, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Et permet que, véritablement, tout soit le premier, que tu aies la première place. Avec cette belle parole que Jésus nous laisse dans l'évangile de Matthieu, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. On va prier, on va demander au Seigneur qu'il véritablement nous fasse grâce, et que nous ne soyons plus à nous battre, ou essayer à nous débarrasser de toutes sortes de choses, hein, sous le prétexte de ceci et de cela, et de pouvoir, eh bien là, sans hésitation et murmure, accepter ce que Dieu nous demande, parce que ce sera toujours le meilleur. On va prier. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour cette parole, parce que nous croyons, Père éternel, qu'au-delà des mots, au-delà, Père éternel, d'une présentation qui reste éminemment humaine, eh bien, nous savons qu'il y a l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs et dans les consciences, dans l'esprit des hommes. Oui, Seigneur, merci, parce que nous sommes invités aux noces royales. Merci, Seigneur, parce que nous sommes tout à fait conscients qu'il y a des hommes et des femmes, tous, de toute façon, eh bien, nous sommes invités, Seigneur, eh bien, là, à remplir une mission, à remplir un témoignage, à pouvoir être le sel et la lumière du monde. Quel que soit, Seigneur, eh bien, en effet, Père éternel, nos capacités. Nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons, Père éternel, que ces lépreux qui ont été tous guéris, eh bien, en effet, il a manqué vraiment, Seigneur, cette grâce pour reconnaître qu'en effet, eh bien, ils avaient reçu beaucoup. Et ils ont sous-estimé, Seigneur, l'importance de l'action de Dieu, l'action miraculeuse, l'action de guérison de Dieu. Nous te bénissons et nous te remercions. Et puis, ce Samaritain, Seigneur, qui lui est revenu, qui a cherché Jésus, à revenir vers Jésus, pour lui dire tout simplement le mot que tu agrées, Seigneur, le mot, Seigneur, qui te fait plaisir, c'est tout simplement te dire merci, Jésus. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ta parole ce matin, et passe maintenant dans nos cœurs. Visite-nous, et qu'ainsi, Seigneur, nous ne cherchons plus à nous battre avec des prétextes, des excuses, des dérobades, toutes sortes de choses, mais donne-nous un cœur simple. Oui, un simple cœur qui croit, qui reçoit, et qui véritablement glorifie ton nom. Merci, Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.